Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot, c'est vendredi, c'est le café des sports. Pep Guardiola est-il revenu de la Premier League ? 2 ans après son arrivée à Manchester City, il a esquissé un bilan dans une interview à la télé espagnole Movistar, un bilan pas si flatteur que ça. C'est vrai, dit-il, il y a le stade, les arbitres qui le laissent jouer plus, mais il m'est arrivé plusieurs fois de me dire quel désastre ces 20 minutes. En général, quand Guardiola parle de football, on l'écoute, on prend son avis en compte. Bref, tout ça mérite un tour de table. Et il y a du monde autour de cette table. Nous avons Bruno Constant. Bonjour Bruno.
Bonjour Christophe.
Bonjour Xavier à tous. Xavier Barré. Bonjour Xavier.
Salut Christophe. Bonjour à tous.
Rémi Ngono. Bonjour Rémi.
Salut, salut, salut. Et à toutes les auditrices et auditeurs aujourd'hui.
Et Alejandro Valente. Bonjour Alejandro.
Bonjour Christophe. Bonjour à tous.
Et puisque nous serons en Angleterre, nous y resterons encore pour parler de Liverpool qui joue ce week-end à Tottenham. Belle affiche. Le dernier match avant le choc contre le PSG mardi prochain à Anfield en ouverture de la Ligue des Champions. Paulo Dybala va-t-il finir par s'imposer quelque part ? Pas titulaire avec l'Argentine, même quand Messi n'est pas là, comme mardi contre la Colombie. Il ne l'est pas davantage avec la Juventus de Turin. L'attaquant est dans une passe difficile. À propos d'attaquant, on parlera aussi de celui que le Liberia a aligné en début de semaine contre le Nigeria en match amical. Il portait le numéro 14 comme à la grande époque. George Weah, 51 ans, a honoré sa toute dernière sélection. Radio Foot préparé avec Guillaume Ploquin, David Finzel et Pierre Guérin. C'est parti pour 45 minutes plus le temps additionnel.
Pour ça, je suis entraîneur. Pour ça, je mérite aussi d'être heureux. Mes équipes vont essayer de jouer comme je veux. Je acabaré otra vez donde empecé. Je, mes últimos pasos, dans la cantera de. Ojalá sea el Barça.
C'est un entretien mené par Georges Valdano pour la télévision Movistar. Entretien avec Pep Guardiola. L'Espagnol aborde plusieurs sujets, mais on s'est arrêté sur cette phrase. La Première Ligue semble meilleure qu'elle ne l'est réellement, dit Guardiola, en raison de la façon dont elle est vendue et en raison de la façon dont le produit est filmé. Alors question, est-ce que Guardiola s'ennuie ? Est-ce qu'il a un petit coup de mou passager ? Bruno Constant, la Première Ligue est attaquée, vous avez la parole.
Alors moi je trouve pas qu'elle est attaquée, parce que dans ce que dit Guardiola, il a raison, c'est-à-dire que la Première Ligue depuis très très longtemps sait vendre son produit. Elle insiste énormément sur la lumière dans les stades, sur la couleur qui passe à l'antenne. On voit souvent des pelouses très très vertes. On peut faire la différence avec des matchs qui sont diffusés de Ligue 1 qui sont diffusés en France. On voit que les lumières sont pas les mêmes. Et tout ça constitue effectivement un beau spectacle qu'il faut vendre au monde entier. Après, quand il parle un peu plus sur l'énergie, sur l'enthousiasme quand mène le public, embarque le public sur le terrain, effectivement, il participe à la pression qu'il peut avoir, à l'intensité qu'il peut avoir sur le terrain. Et il a totalement raison. Effectivement, c'est ce qui fait aussi la beauté du foot anglais, c'est que le public participe et va booster ses joueurs. Et il y a effectivement parfois des temps, pas des temps morts, mais des temps où on se demande ce qui se passe parce que le ballon va d'un point à un autre, le ballon passe au-dessus des têtes.
C'est ça. Il parle de la présence du public, ouais. Comme vous dites, et il dit quand vous revoyez le match, vous vérifiez et vous vous dites qu'il ne s'est rien passé.
Ouais.
Donc quand même.
Mais sauf que ça, on peut le dire pour beaucoup de matchs et ailleurs en Europe. En Espagne, par exemple, il y a des temps morts durant les matchs où les joueurs se passent le ballon, il ne se passe absolument rien pendant 5-6 minutes. Il n'y a pas de pressing, il n'y a pas d'intensité. Ça fait partie de la culture des différents championnats. En Ligue 1, c'est arrivé aussi qu'on s'ennuie parfois pendant des matchs parce qu'il y a des temps morts. Et en Angleterre, c'est pareil. Parfois, il y a des temps morts, mais des temps morts qui sont un ballon qui est parfois incontrôlable, notamment dans les fins de match où l'équipe qui est menée pousse énormément. Et c'est marrant, c'est que Guardiola a un double discours. Il a ce discours-là face aux médias espagnols et face à Jorge Valdano, hein, c'est ça, qui est quand même quelqu'un de connu pour parler du jeu, etc. Et quand il est face au micro de la Sky après un match, il souligne sans arrêt la qualité, l'effort de l'équipe adverse, même une petite équipe, et il répète toujours, on est incapable de savoir si on va gagner le match avant le coup d'envoi, même contre le dernier de la Première Ligue.
Oui, parce que c'est ça qu'il y a aussi derrière cette intervention, c'est le match Liga Première Ligue, et quand il dit, je répète, malgré tout, la Première Ligue semble meilleure qu'elle ne l'est réellement, Xavier, on entend aussi que c'est peut-être un peu moins bon que la Liga. Peut-être. non ?
Peut-être, c'est-à-dire que souvent, quand on voit la Liga, on voit le Real, le Barça, peu l'Atlético, parfois Valence, Séville ou un autre, ou Villarreal. Et c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont une vraie qualité de jeu, mais on voit pas le reste de la Liga. Et quand on voit la Première Ligue, en revanche, on voit très vite, hors du top 6, des équipes, peut-être si on met à part Everton, c'est que des équipes qui sont là pour défendre et se protéger en fait. Donc on a un championnat qui bascule très vite dans la résistance du petit face au grand. Alors comme il y en a 6, voire 7 qui pratiquent un football plus de meilleure qualité, même si Manchester United c'est pas forcément évident, et qui ont en tout cas la volonté de s'imposer, on a toujours un peu ce combat du petit contre les grands. En tout cas on l'a dans 6 ou 7 matchs sur 10 à chaque journée, mais il y a d'autres matchs effectivement où il y a pas une grande qualité, et quand ce sont deux équipes de bas de tableau qui se rencontrent, c'est très vite médiocre. Et moi qui ai la chance de commenter ces matchs-là, aussi bien de la Première Ligue que de la Liga pour Canal Plus Afrique, je peux vous dire que parfois il y a des matchs où on s'ennuie un peu, c'est vrai. Je comprends ce que dit Guardiola. Maintenant, c'est quand même, en Angleterre, il y a quand même une passion. Et là, je rejoins ce que dit Bruno Constant. Il y a quand même une passion qui fait que même un match moyen, eh ben, l'environnement va le rendre sympathique parce que ça chante, parce que le stade est plein. Il a fallu, rappelez-vous qu'en Espagne, il a quand même fallu que la Liga menace certains dirigeants de clubs d'amende si les stades, en tout cas les tribunes qui sont dans l'axe des caméras, ne sont pas remplies. Parce que forcément, un stade vide, eh ben, c'est moins porteur pour commercialiser les images de ce championnat à l'étranger.
Rémi, vous y voyez quoi, vous, dans cette déclaration de Guardiola? Il prépare son retour en Espagne, il attaque ou pas pour vous la Première Ligue?
Pleurnichard ou outrancier, et surtout aussi il commence déjà à préparer son terrain de retour, puisque de toutes les façons, sachant quand même que Guardiola a échoué partout où il allait pour remporter les Ligues des Champions, après avoir été au Barça où il en avait fait. Donc il est arrivé, il faut quand même se le dire, que entre 2013 et 2016 au Bayern Munich, pratiquement il a eu les mêmes plaintes, il n'a pas remporté, il n'a pas dépassé le stade des demi-finales. Quand quelqu'un me dit aujourd'hui que c'est un football ennuyeux, que ce n'est pas un tempo aussi fou que ça, je vais demander à Guardiola, ok. Mais j'ai vu des matchs, j'ai vu Guardiola qui a joué contre une pauvre équipe même qu'on appelle Bristol, qui avait un budget de 7 millions d'euros. Mais Pep Guardiola a marqué, c'est-à-dire Agüero a marqué à la 95e minute. J'ai vu Pep Guardiola contre Huddersfield, j'ai vu Guardiola contre Burnley. Il n'a pas pu battre ces équipes-là, c'est-à-dire que et quand il dit que parce que il fait le jeu seul, mais quand je l'ai finalement vu contre une équipe qui fait du jeu comme Liverpool, il a pris 4. Et quand j'ai vu par exemple que Mourinho, que celui de Xavier Barré est en train de me dire qu'il ne fait pas le football le plus flamboyant, mais Mourinho est allé à la 32e minute sur le terrain de Pep Guardiola, il a donné à Pep Guardiola 3-2. Donc à une certaine période, Pep Guardiola est en train de nous expliquer que il est en train de jouer pratiquement seul contre les gens qui ne jouent pas, mais sauf que il ne parvient plus à imposer ce style qu'il pouvait imposer lorsqu'il était au niveau du Barça, où le football était très flamboyant, ou au niveau de la Ligue des Champions, il allait, mais quand on voit quand même qu'au niveau de la Ligue des Champions, il s'est fait sortir par une équipe anglaise qu'on appelle Liverpool, aller-retour, il a pris 5. Donc Pep Guardiola qui nous laisse tous les championnats, ils trouvent qu'ils ne sont pas bons, il faut ceci et cela. Il y a un proverbe africain qui dit que un bon guitariste sait jouer même avec une simple corde.
Réfé, est-ce que on parle actuellement du retour de Guardiola en Espagne, y compris pas au premier niveau, pas parmi l'élite?
Pas tout de suite, parce qu'il a un contrat et je pense qu'il va pas.
Il finira par y rentrer, par y revenir.
Mais il dit qu'un jour, quand il aura un peu fait le tour de ce métier, il dit qu'il aimerait rentrer à Barcelone et retrouver les divisions inférieures, la formation, qui semble être pour lui la base quand même du football. On reconnaît quand même Guardiola dans tous ses propos. Guardiola est un perfectionniste. C'est quelqu'un qui aime que ses équipes jouent comme il l'imagine dans sa tête, évidemment.
Il aimerait un jeu parfait 90 minutes
voilà.
sur un match entier.
Donc il met la barre très haut, et forcément, à un moment ou à un autre, il peut être un peu déçu. Nous le sommes tous quand nous regardons les matchs, et il peut perdre des matchs, évidemment, comme toutes les équipes en perdent, face à des équipes qui sont moins bonnes. C'est pas toujours les meilleurs qui gagnent, c'est un peu ce qui nous plaît dans le football. Mais lui, ce qu'il aime, c'est la perfection. Il cherche la perfection, et ses propos reflètent un petit peu cette quête qui n'est jamais totalement assouvie, parce que forcément, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des choses qui ne se passent pas comme on les a prévues, quoi qu'on fasse et quoi qu'on veille à éviter que ces erreurs soient commises.
Alors c'est le retour des...
Je me souviens d'une interview qu'avait donnée Xavi à l'équipe il y a quelques années maintenant, où il racontait comment il vivait le match sur la pelouse au Camp Nou avec les réactions du public. Et pour avoir été aussi régulièrement en Angleterre, pas aussi souvent que Bruno Constant, mais quand même de temps en temps, on voit que les réactions du public sont tout à fait différentes. En Angleterre, ils applaudissent dès qu'il y a un corner. Pour eux, c'est une action extraordinaire. Mm-hmm. Le public est comme ça.
Ils applaudissent les tacles.
Les tacles aussi, voilà.
Les tacles réussis.
Et après, quand vous avez des gens qui ont l'habitude du public anglais, quand ils vont à Barcelone ou dans certains stades espagnols, ils vous disent « mais il n'y a pas d'ambiance ». Et ce que racontait Xavi dans cette interview, c'était exceptionnel, parce que il racontait que lui, son cœur battait en même temps que le public du Camp Nou, qui appréciait les échanges, les redoublements de passes, les accélérations, le renversement d'une balle, plus que le combat, c'était vraiment la façon dont le jeu se déroulait. Mmh. Et je pense que Guardiola, vu qu'il est issu de cette école barcelonaise, il a peut-être de temps en temps cette frustration. Et ce qui peut plaire comme ça, vu de l'extérieur, ces ambiances incroyables dans les stades anglais, quelque part, il se dit « ces gens ne me comprennent pas ». Voilà, c'est un constat, je pense pas que ce soit vraiment un reproche, il y a des cultures différentes, c'est ça aussi qui fait la richesse de ces championnats en Europe et dans le reste du monde, c'est qu'il y a des histoires différentes, qu'il y a des cultures différentes, mais parfois elles sont plus difficilement compatibles que d'autres.
Si quelqu'un ne vous comprend pas, cela veut dire que vous êtes soit incompréhensible, ou alors c'est vous qui avez la difficulté à comprendre les autres.
Ah, parce mon cher ami, des fois je vous comprends pas.
Parce que je vais quand même dire que en dehors du football barcelonais, parce que ça ne reste que Barcelone. Parce que lorsque vous arrivez quand même dans une équipe du Bayern qui vient de remporter une Ligue des Champions, vous ne les comprenez pas, alors que vous avez les Ribéry et toute la Kyrielle qui vient de faire un véritable triplé. Vous ne réussissez pas. Vous dites, je ne comprends pas. Vous arrivez quand même quelque part.
Ils sont champions quand même.
Bon, attendez. Vous arrivez, vous rencontrez une équipe de Monaco. J'ai dit bien Monaco, c'est-à-dire Ligue 1. Ligue 1. Alors, vous êtes avec Manchester City. Avec Monaco, vous prenez quand même 6 buts. Donc, à une certaine période, non, je ne comprends pas, et tout et tout. Vous arrivez contre n'importe quelle équipe, vous ne comprenez pas à une certaine période. C'est pour ça que je dis que si Guardiola ne parvient pas à se hisser au top niveau, c'est-à-dire que qu'il aille, par exemple, ne serait-ce qu'en Allemagne, il remporte une Ligue des Champions, qu'il aille en Première Ligue, il remporte une Ligue des Champions avec un grand...
Il faut quand même rappeler aux auditeurs, et peut-être à Rémy Ngono s'il nous écoute. C'est que Guardiola a été champion chaque fois qu'il est allé dans un autre championnat. Tout le monde ne réussit pas. Alors au Bayern, c'est peut-être plus facile qu'ailleurs, parce que le Bayern est champion chaque année, ou presque.
Et même quand tu prends Manchester City, qu'il a trouvé sur les 5 dernières années,
Manchester City... Ce qu'il a fait à Manchester City, c'est quand même...
champion deux fois, je t'ai dit bien, oui, sur les 5 dernières années.
La façon dont ils l'ont
il
été...
a trouvé Manchester,
si je peux
et
finir,
en demi-finale de Ligue des Champions.
La façon dont il a été champion avec Manchester City la saison dernière, tout le monde le salue, même José Mourinho, oui, parce qu'il a réussi
à... Il a battu tous les records quasiment. Absolument.
Plus de 100 points. Il a battu tous les records et il a réussi à imposer son style de jeu là où on disait qu'il n'y arriverait pas. Rémy Ngono notamment, nous le disait il y a un an après qu'il ait eu une première saison d'adaptation un peu compliquée, il a dit il n'y arrivera jamais. Ben, il y est arrivé. Donc moi je trouve qu'il a quand même énormément de mérite de maintenir cette philosophie de jeu dans des contextes qui ne sont pas toujours gagnés d'avance.
Alors on interrompt ici, là, on suspend plutôt, hein, parce que ça va revenir forcément, ce débat sur Guardiola. On quitte un peu le domaine de la philosophie du football pour le terrain, parce qu'il y a quand même de belles affiches, et ce Tottenham-Liverpool particulièrement, deux prétendants au titre, alors que City va recevoir Fulham a priori. Ça devrait aller, Bruno, oui. Juste un petit mot là-dessus. Fulham promu, 13e du classement.
Oui, City.
Assez déséquilibré.
Oui, assez déséquilibré. On va voir si Guardiola va faire tourner un peu son effectif en vue de Ligue des Champions d'ailleurs. Mais a priori, voilà, à domicile, City reste intouchable.
Alors, Tottenham, Liverpool, donc là, vrai match.
Là, c'est un vrai choc. Effectivement, deux prétendants. Tottenham un peu moins que Liverpool, forcément. Mais surtout Tottenham qui est handicapé par des blessures très importantes, puisqu'on a appris que Golori serait à nouveau absent. Que sa blessure à la cuisse, elle n'est pas totalement résolue, et qu'il sera absent au moins encore 10 jours, si c'est pas un peu plus. Et puis Dele Alli aussi, qui était blessé avec la sélection anglaise, qui ne pourra pas tenir sa place. Donc ça fait quand même deux éléments importants de cette équipe des Spurs, qui vit un début de saison un peu compliqué, parce qu'ils devaient entrer dans leur nouvel stade dans ce mois de septembre, et finalement, à cause des travaux qui ont eu beaucoup de retard, et notamment des éléments de sécurité, ils ont dû repousser... le fait de rentrer dans ce nouveau stade, donc ils continuent de jouer à Wembley, ils vont jouer les champions à Wembley, ça peut leur poser quelques soucis, et puis surtout ils restent sur une défaite marquante à Watford il y a 15 jours, ils doivent absolument se rattraper, alors que Liverpool t'es un leader pour l'instant sans faute, 4 victoires en 4 journées, ils ont un football qui maîtrise de plus en plus, le football de Klopp, et puis ils ont d'énormes ambitions avant évidemment ce match de Ligue des Champions face au PSG mardi.
Alors, à propos de Klopp, on va l'écouter parce que cette semaine, Graham Souness, qui est une légende du club, a dit quelques mots sur la qualité actuelle de cette équipe et a dit tout simplement que c'était la meilleure équipe depuis le dernier titre de champion d'Angleterre en 1990. On a soumis cette déclaration à Jürgen Klopp. Écoutez ce qu'il en dit.
I don't know exactly the team from 1990, to be honest.
Je ne sais pas si l'on est aussi fort que le Liverpool de 1990. En revanche, je sais une chose, c'est que nous avons besoin cette saison d'être bons, voire très très bons, parce que les autres équipes sont au top. Elles. La question n'est pas d'être la meilleure équipe, mais de l'être à chaque rencontre, quel que soit le niveau de l'adversaire. C'est ce que nous devons faire. Ces 30 dernières années, le football a beaucoup changé. C'est plus dur, ça va plus vite, c'est plus serré. Il n'y a presque plus de temps mort. Ce sont des footballs différents. Donc comparer le Liverpool d'aujourd'hui avec celui de la fin des années 80 n'a pas vraiment de sens. Notre seul objectif pour l'instant est de donner le meilleur match après match et ne penser à rien d'autre et surtout pas à ce qu'on pourrait obtenir à la fin de cette saison.
Xavier, impossible de comparer deux époques.
C'est-à-dire que le Liverpool de l'époque était un Liverpool déjà très moderne en fait. Et s'il gagnait, c'est parce qu'il avait justement ce pressing, il avait ce gardien qui joue en libéro avancé, Grobbelaar. Il avait déjà toutes ces caractéristiques du football moderne qui ont fait qu'il a dominé l'Europe pendant presque une décennie et qu'il l'aurait peut-être dominé encore un peu plus longtemps sans le drame du Heysel qu'il a exclu des compétitions européennes pendant 6 ans. Donc ce Liverpool des années 90 était très fort, mais il régnait effectivement sur un univers qui était largement en dessous. Aujourd'hui, la concurrence est beaucoup plus forte. Il y a, on le disait, un top 6 en Angleterre qui fait que Liverpool a déjà du mal à se qualifier pour la Ligue des Champions chaque année, à finir dans les 4 premiers. Ils n'ont plus été champions d'ailleurs depuis 1990 parce qu'il y a Chelsea, parce qu'il y a Manchester United, parce qu'il y a Arsenal qui aujourd'hui ont beaucoup travaillé, ont beaucoup recruté et constituent des équipes très cohérentes la plupart du temps. Hein, parce que si je voudrais pas faire trop plaisir non plus à Rémy Nguno en lui disant que le Manchester United de Mourinho est très cohérent. Mais il y a dans l'ensemble un univers beaucoup plus complexe aujourd'hui pour Liverpool qu'il l'était dans les années 90.
Après, faut dire une chose sur Graham Souness, c'est quelqu'un qui est extrêmement sévère dans ses commentaires, et pour lui arracher un compliment, faut se lever de bonheur. Et le fait qu'il lâche quelque chose comme ça, même si c'est son Liverpool qui porte dans sa chair, lâcher un tel compliment, c'est quand même que ça veut dire quelque chose. Et effectivement, il a raison. C'est surtout que le Liverpool d'aujourd'hui n'a jamais été aussi bien armé depuis les années 90. Et il est surtout meilleur que le Liverpool de 2014. C'est le dernier qui s'est rapproché le plus près du titre, celui de Brendan Rodgers avec Luis Suarez, Steven Gerrard. Et c'est déjà quelque chose de se hisser à ce niveau-là et même de le dépasser.
Liverpool s'engage là dans une séquence absolument démentielle. Le calendrier dans les 3 semaines qui viennent, un petit peu plus. Alors, donc, déplacement à Tottenham, un match important dans la course pour le titre. Ensuite, PSG, la réception de PSG mardi, ça sera en direct sur RFI d'ailleurs, en intégralité, pour l'ouverture de la Ligue des Champions. Ensuite, 2 fois Chelsea, coupe et championnat. Et puis, déplacement à Naples. Et pour terminer cette séquence, la réception de Manchester City. Ils peuvent tenir avec leur système de jeu qui mobilise beaucoup, beaucoup les trois devant. Ils peuvent tenir sur tous les tableaux.
J'aime Liverpool, mais à regarder le calendrier, c'est un peu difficile. C'est très difficile parce que en même temps, Ce match qui est en train d'arriver là contre Tottenham, on peut bien dire que Lloris manque ou bien Delali, mais il faut savoir que l'équipe de Tottenham, j'ai vu par exemple le match contre Liverpool. Quand Liverpool arrivait, tout le monde, en commençant par moi, je trouvais que non, ils ont un football très très flamboyant, mais ils ont pris 4. Ils avaient pris 4 contre Tottenham parce que Tottenham ne se découvre pas. Et Liverpool aime des équipes qui se découvrent. Et ils vont certainement laisser des plumes contre Tottenham, d'autant plus que derrière, il y a encore le PSG. Bien évidemment, quand on essaie de regarder quand même que ces joueurs-là, certes, on peut dire qu'ils sont frais, mais 9 joueurs titulaires, non, on peut dire 8 titulaires, étaient à la Coupe du Monde. Et ils étaient pratiquement jusqu'à la dernière semaine. Donc, ce qui veut dire que ils ont laissé un peu trop d'énergie, même si par exemple un type comme Salah est sorti dès le premier tour, mais quand même, ils ont enchaîné. Il faut savoir que Liverpool a lutté tous les 2 derniers mois pour qu'ils se qualifient pour la Ligue des Champions. Et il faut savoir aussi que c'est 2 saisons qui se sont enchaînées comme ça. Donc moi, j'ai vu certaines difficultés, c'est-à-dire aux alentours de la 70e minute, j'ai vu comment est-ce qu'ils baissaient le pied. Est-ce que ça ne peut pas se reproduire ce qui s'était déjà passé contre l'AS Roma, où on a vu que physiquement, ils n'étaient pas très très bien. Bon, j'essaie de
physiquement, ils peuvent être touchés.
Ils ont toujours un creux, effectivement, autour de l'heure de jeu ou un peu plus tard dans la rencontre, autour de la 70e. Mais c'est pour ça que Liverpool a tant recruté ces 2 dernières saisons. C'est qu'ils ont doublé tous les postes et surtout, ils ont recruté un joueur par ligne. Et maintenant, en défense, ils ont du monde pour pallier des blessures. Au milieu de terrain, ils ont énormément de monde avec Fabinho, qu'on n'a encore pas vu cette saison, mais qui va rentrer petit à petit dans cette équipe. Il y a Naby Keita qui est arrivé. Devant, ils ont pris Shaqiri, qui peut pallier un des 3 du trio offensif. Donc, ils ont du monde maintenant pour faire tourner. Et je serais pas étonné si Klopp faisait tourner un peu son effectif face à Tottenham en prévision du match des champions.
Moi, je suis pas inquiet sur la qualité offensive, mais sur la défense, on peut se poser des questions parce qu'ils ont certes encaissé un seul but, mais ils sont contre des équipes qui ne sont pas les plus fortes. Hein. West Ham, Crystal Palace, Brighton, Leicester. On va attendre cette séquence pour voir si la défense se tient bon.
Ils seront testés, effectivement. Ouais. Ouais.
C'est cette séquence, effectivement, qui va dire quel est le vrai potentiel de Liverpool. Parce que, comme le rappelle le réfé, jusqu'à présent, ça a été plutôt une espèce de pré-saison pour eux. Et là l'enchaînement va montrer si le recrutement, l'élargissement du potentiel de titulaire dans cette équipe est vraiment bien ciblé ou pas. Parce que Xherdan Shaqiri, par exemple, pour le moment, on l'a pas beaucoup vu. Et c'est un international suisse qu'on a vu à la Coupe du Monde. Mais bon, il s'intégrer parmi les 3 de devant, c'est compliqué. Maintenant, si on fait tourner, il doit pouvoir rentrer en jeu. Bruno le disait, Fabinho non plus, on l'a pas vu pour le moment. Et pourtant, il est venu à Liverpool parce qu'il a des envies d'être titulaire et des perspectives. Donc l'enchaînement devrait nous dire si Klopp a fait les bons choix et donc s'ils peuvent vraiment viser ce titre de champion qu'ils espèrent depuis tant d'années.
Voilà, et on verra Tottenham aussi juste avant la Ligue des Champions, puisque eux, ce qui les attend, c'est un déplacement à l'Inter Milan en début de semaine prochaine. Juste un mot sur ce Watford-Manchester United qui est intéressant, hein, parce que Watford est une des équipes surprises de ce début de saison.
Bah, c'est la surprise, oui.
Ouais.
Ouais, l'an dernier, ils avaient déjà fait un bon début de saison, et puis s'était effondré. Après, je crois qu'ils avaient 4 victoires, 3 nuls et une défaite seulement au cours des 8 premières journées.
Ils étaient 4e, là, il y a les 2 Manchester et Chelsea après 4 journées.
Ouais, ouais.
Là, ils sont 3e.
Et puis, en général, ils s'effondrent après. Ouais. Donc, il vaut mieux les prendre pas en début de saison, Watford.
Mais c'est surtout une équipe que les observateurs voient toujours descendre et qui se maintient malgré tout. Et assez bizarrement, ils se maintiennent. On dit souvent que la stabilité est un gage de succès dans la construction des clubs. Et ben, à Watford, c'est tout l'inverse. C'est l'instabilité permanente. Ils ont utilisé 9 managers lors des 6 dernières années. Il y a des joueurs qui transitent entre les 3 clubs des propriétaires italiens, la famille Pozzo, entre l'Udinese, Retafe, et Watford, et ça circule, et les joueurs changent, l'équipe change, l'entraîneur
Grenade
change,
revendu, hein.
et ça tient malgré tout, donc voilà, c'est le moins connu des clubs londoniens, mais voilà, on sera pas surpris s'ils rentrent dans le rang très vite et qu'ils finissent en deuxième partie de tableau.
Voilà, Watford, qui est avant cette 5e journée, occupe la 3e position du classement, alors que Manchester United est 10e. Dans notre programme du week-end, nous avons aussi un face-à-face entre les 2 premiers en Italie. Alors les 2 premiers sont la Juventus de Turin, évidemment, et l'autre, c'est moins évident, c'est Sassuolo. Côté Juve, si ça se passe comme pour les derniers matchs, Paulo Dybala sera sur le banc. C'est aussi ce qui lui est arrivé mardi pour le match amical contre la Colombie, alors que Messi n'était pas là, et il était en vacances, il se prenait en photo sur la plage. Alors qu'en dit le sélectionneur par intérim de l'Argentine? On écoute Lionel Scaloni.
Nous avons une très bonne relation ensemble, on échange sans aucun problème. C'est un garçon incroyable, vous savez. Maintenant, concernant notre tactique, même si je ne parle pas de ces choses-là d'habitude, je dois dire que Paulo est un joueur à part, c'est évident. Et nous devons trouver un système dans lequel il peut s'exprimer le mieux possible.
Alors, on parlait de Réfé, on parlait de mauvaise passe pour Dybala actuellement. Il s'impose nulle part, finalement. Où qu'il soit, il ne joue pas. Ou
bah oui, c'est vrai. Alors que, on se rappelle, il y a quelques années, Messi disait, l'avenir est à Dybala. On ne peut que constater que cet avenir est parfois un peu chaotant. Certes, il a réussi une belle saison, la saison dernière, avec la Juventus, mais il a eu quelques loupés importants. Il a manqué, notamment, un penalty qui a conduit à une défaite, face à la Lazio, me semble-t-il. Il s'est fait expulser au match aller contre le Real Madrid et du coup, il a manqué le match retour. Bref, il connaît des hauts et des bas. Sa relation avec Allegri n'est pas optimale. Et plusieurs fois, on sait qu'il y a eu des petits problèmes. Et avec l'Argentine, il espérait effectivement être accueilli un petit peu comme le Messi, puisque le vrai Messi n'était pas là. Et il n'a pas été. Alors, pourquoi? D'abord parce qu'il est arrivé en retard, parce qu'il avait un problème avec un de ses agents, il a dû aller au tribunal arbitral du sport, ça l'a retardé, il est arrivé en retard, donc Scaloni l'a mis un peu de côté. Il espérait quand même être titularisé contre la Colombie, et il n'a pas été. Alors son frère a rapidement tweeté sur les réseaux sociaux, voilà, on le met pas parce qu'il rapporte pas d'argent. Donc ça a créé tout de suite un malaise autour de cette équipe d'Argentine qui n'a pas besoin de ça en ce moment. Et bon, à la fin du match, les deux hommes, Scaloni et Dybala, se sont un peu expliqués. Ils ont dit que non, que tout allait bien, etc. Mais la vérité est que il n'est pas toujours aussi attendu qu'il l'espère. Et à la Juventus, depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, il passe plus de temps sur le banc que sur les terrains. Ben, donc ça pose problème.
C'est surtout qu'il n'est pas indispensable. C'est qu'à un moment donné, si tous les entraîneurs qui l'ont, ils se rendent compte qu'il est pas indispensable dans le 11 et qu'ils le mettent sur le banc, c'est qu'il y en a raison. On parle beaucoup de la saison passée comme une super saison de Dybala, mais quand on regarde vraiment ses stats face aux équipes du top 10, par exemple, je crois que c'était 5 buts en 18 ou 19 matchs. Donc c'est très moyen pour un joueur de ce calibre-là et on attend beaucoup plus. Moi, il me fait parfois penser à Eden Hazard, qui, les saisons précédentes, qui avait du mal à briller face aux grandes équipes, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit dans des chocs de championnat anglais. Et Dybala, on a un petit peu l'impression de la même chose. Il a des temps faibles dans les rencontres qui sont très importants. Il défend pas beaucoup. Et à un moment donné, dans la Juve, quand vous avez Douglas Costa, quand vous avez Ronaldo et Mandzukic, il faut trouver de la place. Et Allegri, il est très clair là-dessus. Il peut pas aligner 5 joueurs offensifs, voire 4 joueurs offensifs. Pour l'instant, c'est un 4-3-3 et Dybala a pas sa place.
Mais Allegri était pourtant parti sur cette idée-là, puisque la première journée contre le Chievo-Vérone, il aligne Cristiano Ronaldo et Dybala. Bon, ça n'a pas tenu tout le match, et depuis...
Non, ça a été une victoire difficile pour la Juve, ce match initial. Alors bien sûr, Cristiano Ronaldo venait d'arriver, mais bon, il y a un vrai problème de positionnement que Bruno a très bien expliqué pour Dybala. Déjà la saison dernière, et il est pas souvent titulaire, alors il rentre beaucoup en cours de match, c'est un super sub, c'est lui d'ailleurs qui fait basculer le match en huitième de finale contre Tottenham à Wembley en Ligue des Champions, parce qu'il a vraiment du talent, mais après, dans le système de la Juve, c'est difficile de le positionner sans déséquilibrer l'équipe. Donc, et on a un peu le sentiment que c'est la même chose en Argentine, où il y a eu pendant toutes ces années un Messi qui faisait un peu ce qu'il voulait, mais parfois un peu tout seul, mal épaulé, et là, moi j'ai pas vu le match contre la Colombie, mais j'ai vu celui contre le Guatemala, qui il est vrai est un adversaire beaucoup plus modeste, mais on avait le sentiment que cette équipe d'Argentine était beaucoup plus cohérente, sans Dybala d'ailleurs, mais avec Lo Celso et Palacios à la baguette.
Voilà, Scaloni lui avait préféré justement Palacios, joueur de River Plate, qui a d'ailleurs marqué, donc évidemment ça pose...
Et si vous regardez bien effectivement tout ce qui s'est passé avec les sélectionneurs ces dernières années dans le football, et bien il y en a qui à des moments ont fait des choix. Del Bosque a écarté Raoul, par exemple. Donc Deschamps a écarté Benzema et on en a beaucoup parlé. Donc voilà, quand vous faites une sélection aujourd'hui, c'est de plus en plus pour faire comme un club, pour construire une équipe cohérente. La victoire des Bleus, d'ailleurs, la Coupe du Monde, renforce ce sentiment que le collectif est plus important que les individualités. Et Dybala, s'il veut percer, effectivement, il va falloir qu'il se glisse un peu dans le moule pour pouvoir exprimer son talent dans un cadre collectif.
Ouais, on verra.
Dans ce cas, donc, puisque vous dites que maintenant, c'est le collectif qui prime, et comme cette équipe-là a été très cohérente sans Messi et Dybala, on enlève Messi, on enlève Dybala. Dans ta logique, c'est clair.
Comme mais on Messi, a enlevé avant. Messi voilà. s'est enlevé maintenant. Voilà. Donc il s'est enlevé donc, lui-même.
Mais maintenant, je devrais quand même dire que même s'il a fait une mauvaise saison, n'oublions pas que c'est Higuain qui était l'avant-centre. Mais Dybala finit meilleur buteur devant Higuain. Et le problème, c'est quoi? C'est que, à une certaine période, je crois qu'il est devenu une sorte de chauve-souris ou bien quelqu'un qu'on met n'importe où, peut-être parce qu'il ne boude pas assez. Parce qu'il faut quand même se dire qu'au départ, il jouait en attaquant de soutien de Mandzukic. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que tantôt on le positionne côté gauche et finalement, il se perd. Et même quand il arrive toujours au stade, il est toujours obligé de s'adresser à l'entraîneur. Où est-ce qu'il doit se positionner? Et quand on regarde aujourd'hui le véritable, la véritable difficulté qu'il peut avoir, c'est quoi? C'est que la Juve a l'un des effectifs les plus riches actuellement en qualité et en quantité. Et quand on voit par exemple devant, il y a Mandzukic qui ne marquait pas la saison dernière, mais qui a commencé la saison de façon tonitruante parce que lui-même, il était au banc. Donc, il est venu, il a marqué et du coup, il a eu la confiance de l'entraîneur. Au milieu du terrain, où devrait être positionné, par exemple, un type comme Dybala, Matuidi, qui n'avait pas la confiance l'année dernière, ou bien qui n'avait pas l'extrême confiance, il s'est déjà totalement encore repositionné, tout comme Pjanic, qui est un boulon indétrônable. Parce qu'il faut d'ailleurs savoir que Matuidi, revenant d'une bonne Coupe du Monde, et que, par exemple, Pjanic voulant aller au Barça, on lui a garanti une place de titulaire. Et alors, il reste qui? Au milieu du terrain, il n'a plus de place. Oui, parce qu'il y a Khedira quelque part là. Mmh.
Il y a Khedira qui est là. Et voilà. Qui vient d'arriver.
Can, finalement, arrive souvent à jouer vers les 15-20 dernières minutes. Mais moi, ça me fait mal de voir quand même qu'un tel joueur d'une telle envergure ne soit même pas mis dans les 15, les 20 dernières minutes. C'est ça que je regrette beaucoup.
Oui, mais il y a le positionnement, mais il y a aussi un problème plus inquiétant, peut-être, qui est son attitude. On a entendu tout récemment Andrea Pirlo dire, si Dybala veut être titulaire, il faut qu'il regarde Cristiano Ronaldo à l'entraînement et qu'il mette la même intensité dans ses entraînements. Et c'est vrai que parfois, Dybala paraît un peu dilettante et beaucoup associent cette attitude à sa liaison avec la nièce de Gabriela Sabatini, Oriana Sabatini. On le voit beaucoup à la une des magazines, etc. On a un exemple ici.
Ah oui, on donc, le voit, oui. On les voit.
Il fait beaucoup d'escapades pour justement retrouver cette jeune fiancée. Et tout ça peut expliquer que mentalement, il soit parfois moins engagé, moins présent. Et ça peut être un problème pour lui à l'avenir.
Et on verra si Cristiano Ronaldo, c'est aussi un des points d'interrogation du week-end.
On pourra mettre la portada, la couverture du journal sur la page Facebook de RFI Radio Foot.
Mais bien sûr. Pour je vous laisse qui sont curieux procéder.
De voir à quoi ressemble la nièce de Gabriela Sabatini.
Cristiano Ronaldo, 270 minutes sans marquer pour le moment. On va voir si il va refermer cette parenthèse ce week-end.
De toutes les façons, ça.
Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Je suis vraiment très content, très heureux d'être là. Et venir à Bordeaux, c'est presque un rêve qui devient réalité.
Ouais, je crois que Rémi voulait dire un mot sur Cristiano, mais maintenant c'est Ricardo qui vient sur le tapis. Ça vous dérange pas? Parce que Ricardo revient en France, sur le banc, mais non. Ricardo, ancien entraîneur de Bordeaux dans les années 2000, au début du siècle, revient donc comme manager général des Girondins de Bordeaux, et on va le voir dimanche contre Nîmes, à domicile, Bédoué restant l'entraîneur principal de ce club. 2005-2007 déjà, les Girondins Girondins, c'était avec le Brésilien. Et Marius Trésor était dans le staff. Ils gardent un petit souvenir de cette époque.
Je me rappelle simplement les deux années qu'a passé Ricardo aux Girondins de Bordeaux, surtout la première année. C'est vrai qu'on n'avait pas marqué énormément de buts. Mais on avait terminé meilleure défense. Et on sait que quand on a une défense solide, ça permet d'avoir des ambitions assez élevées.
Ça avait donné des résultats, Xavier, le Ricardo à Bordeaux à l'époque.
Oui, ça s'était plutôt bien placé. Je suis en train de les rechercher justement les
alors,
résultats.
Alors, deuxième du championnat en 2006, voilà. dès sa première saison. Et puis, victoire, ils avaient gagné la Coupe de la Ligue la saison suivante.
C'est lui qui avait un peu mis les fondations de l'équipe sacrée championne sous Laurent Blanc. C'est ce que disent beaucoup de joueurs, c'est ce que disent beaucoup de dirigeants. Moi, je connais bien Eric Bédouet, on en avait discuté. Et il avait fait un travail remarquable. C'est quelqu'un qui remet de l'ordre dans une maison et qui est quelqu'un qui est intransigeant, qui est rigoureux, qui est dur. Et aujourd'hui, ce dont a besoin Bordeaux, quand on voit, excusez-moi l'expression, mais c'est un bordel sans nom.
Ah, les situations, oui.
Et ils ont besoin de quelqu'un qui remette de l'ordre et qui aplanisse un peu tout ça. Et entre l'histoire Poyet, qui est licencié pour soi-disant pour faute grave, entre l'histoire Thierry Henry, qui voulait venir, mais finalement, face à un nombre incalculable d'intervenants, il vient pas. Les M6 qui s'en mêlent, les Américains qui s'en mêlent. C'est un club hallucinant,
M6,
Bordeaux.
C'est encore le propriétaire, donc c'était normal qu'il s'en mêle.
Oui, on les entendait plus depuis des mois, et là, comme par hasard, alors que le club va être vendu, ils réapparaissent et c'est eux qui amènent le nom de Thierry Henry. Enfin,
oui, mais aujourd'hui, on apprend que les Américains, finalement, voudraient changer le président, Stéphane Martin, alors qu'on pensait qu'il allait rester. Je pense que tout ça dépasse largement Ricardo Gomez. Oui. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a disparu des radars de la France depuis plusieurs années, qui a eu des problèmes de santé.
Il a fait deux AVC.
Voilà, on ne sait pas trop où il en est, ni au niveau santé, ni au niveau des sa connaissance du football français, ni des ce qui a beaucoup changé depuis son époque. Donc, effectivement, dans un club aussi instable, ça risque d'être compliqué.
Il y a eu tellement de perturbations autour du club là, sur ce début de saison que ça se voit au classement. Ouais, ils sont 19e, donc ça va mal. Est-ce que Ricardo peut...
Mais ils ont joué aussi l'Europa League, qui leur a pris beaucoup d'énergie.
Ils continuent à jouer l'Europa League.
Ils sont qualifiés, difficilement, mais ils sont qualifiés. Maintenant, il y avait l'objectif, c'était pas que Poyet soit viré. C'est ces propos un peu incohérents qui ont obligé les Girondins à le virer, à trouver une solution. Et à partir du moment où le club est en vente, c'était normal qu'il s'adresse au futur propriétaire pour savoir ce qu'il voulait faire. Et comme le futur propriétaire aussi ne s'attendait pas à ça, ils ont été un peu pris de court. L'option Thierry Henry était intéressante, mais effectivement, le contexte ne se prêtait pas à son arrivée. Les engagements financiers étaient pas suffisants. Alors du coup, on a cherché cette solution qui, je pense, pour moi, est une solution de transition. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ricardo, il apporte une certaine aura.
Il connaît le club.
Il connaît le club, voilà. Donc c'est une façon de gérer les mois qui viennent. Mais comme vous l'avez dit, Christophe, depuis qu'il a quitté Monaco en 2009, il est passé Sao Paulo, Vasco de Gama, Botafogo, Sao Paulo. Il est allé en Arabie Saoudite et Santos où il était directeur sportif. Il a beaucoup changé, beaucoup bougé. C'est vraiment, j'ai l'impression, surtout son nom qui va servir aux Girondins pour calmer les supporters dans l'immédiat.
Rémi, le nom va servir. Alors là, moi, de toutes les façons, moi, aujourd'hui, quand on me parle et d'ailleurs, quand tu essaies de voir tout le bilan de là où il est passé, ça n'a pas été un fort succès. Donc aujourd'hui, El Refe était en train de souligner quelque chose qui est primordial. On ne peut pas avoir de l'aura, on ne peut pas avoir du charisme alors qu'on a déjà des difficultés au niveau de sa propre santé. On me dit qu'il connaît la maison, il connaît quelle maison. C'est à peu près comme si vous quittez un quartier et puis il y a des jeunes qui naissent et tout, et vous revenez quelques temps après. Il ne connaît personne, aucun de ces joueurs qui est là.
Les supporters le connaissent,
les joueurs qui vont jouer, mais attendez, il connaît l'environnement
de Bordeaux.
On est en train d'aller prendre quelqu'un qui ne connaît même pas cet effectif-là, et lui, il n'a même plus regardé le championnat de France. Entre son lit d'hôpital et tel ou tel endroit, on va le prendre. Moi, il y a un proverbe africain qui dit, une bonne abeille ne reprend pas une fleur fanée.
Jingle.
Bah oui.
Trop en retard.
Oui.
Alors vous savez qu'il y a eu des matchs amicaux entre équipes nationales, bon, on en parlait notamment avec ce match entre l'Argentine et la Colombie début de semaine, et parmi ces matchs il y a eu Liberia-Nigeria dans la compo de l'équipe du Liberia. On n'avait pas vu son nom depuis longtemps, George Weah, le président du Liberia en personne. Alors on peut s'étonner de voir un homme de 51 ans avec des coéquipiers qui ont 20 ou 30 ans de moins que lui. Mais enfin, bon, c'est George Weah, c'est une légende. Alors, question ouverte pour vous. Il aurait presque c'était un beau moment ou c'était n'importe quoi.
Et il aurait presque pu jouer avec son fils Timothée si celui-là ne jouait pas pour les États-Unis.
Ouais.
Voilà, je crois que c'est arrivé une fois dans l'histoire du football qu'un père joue avec son fils. C'était Gud Johnsen, père et fils, avec l'Islande. Avant qu'on en parle, c'était une époque où l'Islande avait une réputation confidentielle, et le père qui avait joué à Bordeaux, donc, avait cédé sa place à son fils lors d'un match. Je sais plus si c'est un match amical ou de compétition, mais bref, voilà, c'est l'unique fois à ma connaissance où ça s'est passé dans l'histoire du football. Là, George Weah qui joue, ça ressemble effectivement, c'est un jubilé, mais très franchement, est-ce que c'est sa place alors qu'il a été élu à la présidence d'un pays qui a tant besoin de réformes? Personnellement, je suis un peu un peu perplexe.
Mais c'était un vrai match amical, c'est-à-dire que ça compte pour une sélection. Mmh. C'était sa 61e sélection. Alors, 16 ans après la dernière, après la fin de sa carrière internationale, vous dites jubilé, mais il y avait en face quand même 6 Nigérians qui étaient à la Coupe du Monde. Mmh. Bruno, ouais.
Non, mais comment vous voyez ça? Ça ressemble à un jubilé, évidemment, mais après, ça en dit long sur le niveau, niveau de l'équipe du Libéria. Mais... Allez, il peut
se préciser que le Nigeria a gagné 2-1.
Ouais, mais c'est pourquoi pas si ça arrive une fois, pourquoi pas, mais si c'est vraiment un jubilé en tant que tel. Mais faut pas que ça se reproduise, quoi. Enfin, c'est voilà, on a l'impression que c'est le président qui joue un peu avec son jouet et qui a envie de se faire plaisir et qui s'offre une dernière avant de se consacrer.
Après, bon, on peut constater que on parle rarement du Liberia ailleurs, ouais, qu'est sur ce genre d'information, et donc Weah peut-être profite de sa notoriété également pour attirer un peu l'attention sur son pays. En tout cas, ça peut être une lecture positive.
On parle de Weah.
Voilà, donc, ça peut être une lecture positive. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a entendu des choses comme quoi, par exemple, il avait décidé de retirer le numéro 14 à tout jamais de l'équipe du Liberia. Bon, je ne sais pas si cette information est exacte ou pas, mais ça peut paraître un peu étonnant.
Rémi, comment vous avez vu ça, vous ?
Déçu.
Par Mr. George ?
Trop déçu. C'est la République du football.
Il s'est perdu.
Votre ville. Parce que je ne comprends pas comment un chef d'État peut se permettre des choses comme ça. Quels sont les actes qu'il a posés, lui qui a été élu ? Première des choses, il invite Arsène Wenger pour le décorer avec, par exemple, Claude Leroy. Mais attendez, et tout le monde connaît que oui, Claude Leroy a fait une petite sorte de chose là pour qu'il vienne jusqu'ici, alors que par exemple on venait plutôt voir un autre Stephen au Cameroun pour qu'il vienne plutôt à Monaco, et puis ça fait des petites jongleries pour qu'il arrive là. Mais ce n'est pas pour cela que tu vas utiliser ta stature de chef d'État pour inviter tes deux entraîneurs qui t'ont mis sur la voie du football, ou bien sur la voie du professionnalisme. Deux, tu quittes de là. Tu vas maintenant organiser des matchs amicaux. Et il fallait le voir. Il fallait voir George Weah. Ça n'avait rien à voir avec un sportif. Attendez, moi également, de ma stature, bien que buvant de l'alcool et mangeant 4 kilos par jour, je ne peux pas aussi trimballer ce gros gabarit que j'ai vu George Weah.
Vous êtes un peu sévère.
Ah non, mais attendez. Mais qu'il fasse d'abord du sport et qu'il s'occupe de son pays. Son pays en a besoin de lui. Pas qu'il fasse du vagabondage sportif, du culte comme par exemple le président du Burundi. C'est la même chose que le président du Burundi fait. Et il met le short et dit Saint-Esprit Football. Et maintenant, le Liberia est devenu Weah Football. Mais le Liberia, c'est une république. C'est pas un club de sport.
Il y a pas de proverbe là.
Il a joué quand même 79 minutes, hein, George Weah. Mais bon, cette fois c'est fini, sa carrière internationale s'est terminée en début de semaine.
Carton jaune.
Un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Alors, qui veut commencer les cartons? C'est la tournée chaque semaine. Xavier.
Je commence par un carton vert à un joueur qu'on apprécie beaucoup en Ligue 1 qui s'appelle Vitorino Hilton et qui a soufflé ses 41 bougies cette semaine. Et c'est lui le doyen de la Ligue 1, c'est pas Gigi Buffon, hein, c'est Vittorio Hilton. Et c'est un... Comment ?
Un futur Wea, peut-être.
Non, parce que lui, il n'est pas président du Brésil, enfin pas que je sache. Mais c'est un modèle, vraiment. Il est défenseur à Montpellier maintenant, il est passé par l'OM auparavant, et c'est vraiment un modèle de professionnalisme et de gentillesse. Je veux dire, c'est quelqu'un d'extrêmement abordable et qui reste vraiment exemplaire par son comportement à tous les niveaux.
Bruno ?
Alors je ne sais pas quelle couleur donner à ce carton. En tout cas, c'est contre les instances du football, la Fédération française, la FIFA, etc. Pour cette histoire autour de Jean-Kévin Augustin, le joueur français de Leipzig, qui va être probablement suspendu par les instances parce qu'il a refusé de rejoindre la sélection de l'équipe de France Espoir pour une rencontre, parce qu'il s'estimait fatigué, etc. Parce qu'il voulait se concentrer sur son club. Et moi, je pense qu'à un moment donné, les joueurs ont le droit de refuser la sélection. On ne peut pas obliger les joueurs à porter le maillot de la sélection s'ils n'en ont pas envie. Et à un moment donné, dans la vie des joueurs, peut-être qu'ils ne peuvent pas jouer. Alors, on peut le sanctionner d'une autre manière. On peut dire que s'il vient pas, effectivement, c'est sa décision. Mais derrière, il ne peut pas pleurer s'il n'est pas rappelé pendant un an ou deux ans. Mais ne pas le sanctionner, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à encourir une affaire auprès de la CISTA, auprès de la FIFA, pour le suspendre plusieurs mois avec son club. Il est payé par son club. Certes, c'est un devoir de défendre les couleurs de sa nation. Mais s'il veut pas, qu'est-ce qu'on fait ? On va le forcer ?
Alors Noël Le Graët s'est exprimé d'ailleurs, je crois, aujourd'hui ou hier, hein, sur le sujet dans une interview à West France. Il précisait que le joueur avait averti qu'il viendrait pas par texto, qu'il avait les jambes trop lourdes, et que quelques heures plus tard, il jouait un match amical avec son club en marquant deux buts.
Donc on va pas l'obliger.
Mais ce que vous dites, c'est ouvrir la porte à ce que les clubs fassent pression sur les joueurs pour les empêcher de rejoindre leur équipe nationale. Ça pourrait être catastrophique pour des équipes africaines ou des équipes d'autres régions qui n'ont pas les moyens ni peut-être.
Mais sauf que les joueurs ont besoin des sélections, et les joueurs qui voudront jouer en sélection viendront toujours jouer en sélection malgré la pression des clubs. Ça a toujours existé.
C'est un vrai sujet de débat. Bon, c'est un carton avec des points de suspension, on va dire. On aura l'occasion d'y revenir. Rémi.
Carton rouge mon journal www.coufin.com à la sélection aux joueurs du Niger. Ces gars, ils sont partis prendre 6 buts, et au lieu de se taire, au lieu de rentrer la queue entre les jambes, ils disent que non, en fait on n'avait pas de prime, en fait on n'a pas bien mangé, il nous fallait 2 kilos de riz avant les entraînements, il nous fallait le poulet rôti braisé et tout. Mais mon Dieu, ils viennent maintenant accuser la fédération, mais je devrais quand même dire que quand on joue en Afrique, et particulièrement dans une équipe comme le Niger, je sais très bien par exemple que le Tchad a signé le forfait, si vous ne voulez pas jouer, vous signez le forfait, ce n'est pas qu'à avoir eu à aller décevoir les couleurs de votre pays, vous commencez à dire non, il fallait que nous ayons de telles conditions. Le Niger est un pays très pauvre et ils se battent contre corps et âme et même contre Boko Haram pour que le pays soit sécurisé. Donc les joueurs de football, c'est pas la priorité des priorités. Donc eux, s'ils n'ont pas l'amour de leur pays, qu'ils ont moins le temps de se fermer cette bouche-là que de venir accuser les autres, parce que c'est eux qui ont déçu, c'est eux qui ont humilié le Niger. Comme le dit un proverbe africain, le renard ne sent pas sa propre odeur.
C'est difficile de dire, mais ça mérite débat.
Petit carton.
Oui, petit carton vert pour Javier Pastore, qui nous avait habitués à se blesser toujours avant les matchs importants quand il était au PSG, et qui récidive, donc avec toujours un très bon esprit à la Roma, puisqu'il va manquer le match contre le Real Madrid.
Merci à tous, messieurs. Radio Foot, c'est terminé. On suit bien sûr le foot et tous les autres sports avec Mondial Sport ce week-end. 21h30 temps universel, samedi et dimanche. Alors bon week-end.